elle m'expliquait que avec la méthode naturelle, il n'y avait jamais d'échec. Parce que soit il n'y a pas d'enfant, et dans ce cas-là, bah, ça veut dire que ça a marché. Et s'il y a un enfant, bah, comme un enfant, c'est jamais un échec. Et ben, du coup, ça marche quand même. Enfin, c'était vraiment horrible.
Je suis Esther, journaliste chez mademoiselle.com. Tu écoutes le podcast Ma contraception et moi. Et dans ce 5e épisode, on va aborder les méthodes de contraception dites naturelles. Ce ne sont pas à proprement parler des moyens de contraception. Ce sont des méthodes de suivi de la fertilité qui peuvent être utilisées pour réduire les risques de fécondité. Voilà des semaines, voire des mois, que je lis, que j'entends parler de ces méthodes. Souvent, dans les témoignages que j'ai lus, le choix d'une méthode dite naturelle est motivé par le rejet des hormones, par la peur que peut inspirer la contraception. Est-ce que ça n'aurait pas des effets néfastes sur mon corps ? Comme pour la pilule, ce sont des réticences que j'entends, que je peux comprendre. Après tout, j'ai moi-même fait face à ce questionnement quant aux hormones. Mais des méthodes de contraception hormonale ou des méthodes dites naturelles, je ne suis pas sûre que la deuxième solution soit la meilleure, en termes d'efficacité, de santé, de sérénité. Comme je ne suis moi-même pas experte du sujet, je suis allée interroger celles qui se posent la question, ainsi que des professionnels de santé. Pour commencer, tu vas entendre Adèle, qui se sent un peu incomprise d'un côté comme de l'autre.
J'entends beaucoup de choses sur la pilule, sur les hormones, et je ne sais pas trop quoi en penser, donc ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Et voilà, et pas des informations qui soient biaisées. Parce qu'en général, quand on émet des doutes à quelqu'un du corps médical, c'est « Oh, mais non, il n'y a pas de... » Enfin, tout de suite, c'est un peu genre « Ah, oh, mais bon, vous êtes une écolo, bobo. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est que des fake news, etc. » Et de l'autre côté, quand je parle des hormones à des gens qui sont réticents, ils vont forcément sortir des espèces de théories du complot, etc. Et donc, en fait, je suis un peu paumée entre ces deux discours.
Tu t'en souviens peut-être, Adèle nous avait déjà expliqué dans l'épisode sur la pilule que celle-ci était devenue une contrainte pour elle. Je reviens avec elle sur ce problème et sur les méthodes qu'elle a envisagées pour la remplacer.
Puisque ça s'était bien passé avec la pilule la première fois, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ?
Bah, c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est juste que j'ai... En fait, sur la dernière année où je l'ai prise, où du coup j'étais plus en couple et où du coup je la prenais plus du tout sérieusement, je me souviens que c'était vraiment une contrainte. Et je me souviens que le fait d'avoir une ordonnance, je crois qu'il fallait que, voilà, j'avais une ordonnance par an. Il fallait du coup prévoir le gynécologue où t'as pas rendez-vous avant 6 mois. Et très souvent, il m'est arrivé que ça soit ma mère qui est médecin qui me fasse l'ordonnance. De remplacement en quelque sorte, parce que j'avais pas réussi à avoir mon ordonnance à temps et du coup j'allais avoir une interruption. Je me souviens que la dernière année c'était vraiment une contrainte de la prendre tous les jours et là je me sens pas de refaire ça en fait.
Et t'as pas envisagé d'autres moyens qui soient plus permanents ?
Alors pour les autres moyens, en fait il y a l'implant qui m'avait intéressé un moment, mais j'avais vu ma sœur avoir un implant. Et c'était quand même assez violent au niveau... C'est-à-dire que les effets secondaires de la pilule, chez elle, ça s'était fait x10 avec l'implant, dans le sens où elle avait vraiment des grosses douleurs au ventre. Je crois que pendant une année, elle a eu ses règles constamment, avant de plus les avoir du tout. Donc voilà, il y avait quand même eu des gros impacts sur son corps. Et moi, ça m'avait un peu freiné. Et le stérilet, pareil, j'ai des amis qui n'ont pas du tout bien supporté le stérilet, qui ont eu des règles hyper abondantes et très douloureuses. Et voilà, le stérilet et l'implant, ce sont les deux trucs qui me paraissent fiables et qui me font très peur. Et dans les autres moyens de contraception, comme le patch ou les spermicides, ça me fait peur aussi parce que ça me paraît quand même très contraignant. Donc voilà, c'est pour l'instant, c'est pour ça que les méthodes de contraception, pour l'instant, il n'y en a aucune qui me paraît meilleure que l'autre. Et le préservatif, pour l'instant, ça me va. Et c'est pour ça que je me tournais vers les méthodes naturelles, parce que même si ça s'avère aussi très contraignant, je me suis un peu renseignée. Ça me paraît au moins je prends aucun risque avec mon corps, quoi. Pour l'instant, je reste quand même très sceptique par rapport aux méthodes naturelles, parce qu'il n'y a pas, enfin, il y a pas trop de, enfin, les statistiques changent en fait d'un point de vue à l'autre. Et en fait, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant.
C'est vrai que les méthodes dites naturelles ont cette ambivalence. Il y a l'attrait dû à l'absence d'hormones, de quoi que ce soit pouvant influencer sa santé ou son corps, mais leur principal inconvénient reste de taille, leur manque de fiabilité. Pour que tout ça soit plus clair, je voudrais faire la lumière sur ce dont on parle, concrètement, quand on dit méthode dite naturelle. J'ai donc de nouveau fait appel au docteur Laura Berlingo, gynécologue obstétricienne qui officie régulièrement dans le podcast Mademoiselle Coucou le cul, et à Martin Vinclair, médecin généraliste ayant longtemps officié en planning familial. C'est ce dernier qui me rappelle ce que sont précisément les méthodes dites naturelles.
Qu'est-ce que c'est qu'une méthode de contraception naturelle ? C'est une méthode de contraception qui n'est pas artificielle comme la pilule ou le stérilet ou l'implant. C'est une méthode de contraception qui consiste en gros à avoir des rapports sexuels non protégés seulement pendant les périodes où une femme n'est pas fertile. En principe, la fertilité d'une femme, si elle a un cycle à peu près régulier, la fertilité d'une femme dure 5-6 jours par mois. Il faut compter 3 jours avant l'ovulation et 3 jours après, parce que, peut-être même un peu plus, parce que les spermatozoïdes, une fois qu'ils sont dans les trompes, ils peuvent vivre jusqu'à 5 ou 6 jours. Donc, s'il y a des spermatozoïdes déjà 5 jours avant l'ovulation, ou s'il y en a pendant les 5 jours qui suivent, il peut y avoir une grossesse à ce moment-là. Les méthodes de contraception naturelle consistent à essayer de calculer ou d'apprécier la date de l'ovulation pour éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés à ce moment-là. Évidemment, c'est un peu acrobatique parce qu'il faut pas seulement repérer le jour de l'ovulation. Si vous repérez que votre ovulation est un mercredi, mais que vous avez eu des rapports sexuels non protégés le lundi, les spermatozoïdes ils sont déjà en place, vous pouvez être enceinte. Donc il faut que vous puissiez estimer à peu près à quel moment de votre cycle vous êtes susceptible d'ovuler. Et ça peut être compliqué parce que, justement, toutes les femmes n'ont pas un cycle de la même longueur et n'ont pas un cycle régulier. L'idée selon laquelle le cycle doit être absolument régulier et faire 28 jours, c'est une légende. C'est quelque chose qui a été inventé par les médecins au début du XXe siècle, mais l'immense majorité des femmes en parfaite santé ont un cycle qui peut varier entre 25 et 35 jours. Et ça peut même être différent d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont tantôt un cycle de 25 jours, tantôt un cycle de 30, tantôt un cycle de 35. Il n'y a pas de norme. Et ça n'est pas un signe de mauvaise santé non plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui agissent sur l'ovulation. Le poids, l'activité physique, par exemple les femmes qui ont une activité physique assez intense, qui sont des sportives intenses, qui font du vélo, qui font de la course, qui font de la natation de façon intense, peuvent très bien ne pas avoir de règles du tout, avoir des règles 4 fois par an, tout simplement parce que leur activité physique et le fait qu'elles maintiennent leur poids à la limite la plus basse tolérable pour leur sport fait que leur ovulation se met en suspens, et cela sans contraception.
Mais pour évaluer le moment de son ovulation, il y a différentes techniques. J'ai demandé à Adèle ce qu'elle envisageait.
Du coup, je me suis un peu renseignée. Il y a la méthode qu'on appelle d'observation, où du coup, on va observer la qualité de la glaire cervicale qui change au moment de l'ovulation. Et la méthode et qui se base aussi sur la température du corps.
Martin Vinclair m'a aussi expliqué le fonctionnement de certaines méthodes.
Il y a diverses méthodes pour calculer l'ovulation. Il y a des méthodes qui sont... La méthode la plus simple, ça consiste à prendre un calendrier et puis à regarder à peu près tous les combien tombent les règles. Et on estime en général que l'ovulation a lieu 14 jours avant les règles. Donc, si vous avez un cycle de 28 jours, ça tombe 14 jours avant, c'est-à-dire le 14e jour. Mais si vous avez un cycle de 35 jours, ça va tomber plutôt le 21e jour, l'ovulation. C'est la deuxième phase après l'ovulation qui est à peu près toujours constante, parce que le follicule, c'est-à-dire la petite poche qui contient l'ovocyte dans l'ovaire et qui a expulsé l'ovocyte vers la trompe, ce follicule vit 14 jours après l'ovulation. Au bout de 14 jours, il cesse de fabriquer des hormones. Et si les hormones de l'embryon, s'il n'y a pas d'embryon qui a repris le relais, à ce moment-là, les règles surviennent. Donc, encore une fois, plus votre cycle est long et plus votre ovulation, en principe, a lieu tard. Le problème aussi, c'est que parfois, une ovulation peut avoir lieu à un autre moment du cycle. Tout simplement parce que vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être vivant, et qu'un être vivant avec un système biologique, ça ne marche pas comme une horloge. C'est quelque chose qui peut avoir des variations avec le temps, avec l'alimentation, avec l'ensoleillement, avec le sommeil, avec l'activité physique, avec tout ce que vous voulez. Alors quand on utilise des méthodes naturelles, elles sont d'autant plus efficaces qu'on a une vie régulière.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Que on n'est pas fatigué, qu'on va bien, qu'on mange correctement, qu'on dort à peu près toujours la même quantité d'heures, qu'on a une activité physique stable. Bref, ça ne peut être fiable que chez des gens qui ont une vie particulièrement rangée. Et ça arrive, et pour ces gens-là, c'est parfaitement fiable. C'est pas forcément utilisable, par exemple, quand on est, je ne sais pas moi, hôtesse de l'air. Test de l'air, là, vous aurez du mal à utiliser une méthode naturelle. Il vaut mieux, à ce moment-là, utiliser tout le temps des préservatifs. Ce sera plus efficace que d'utiliser une méthode naturelle. Il y a des appareils plus ou moins élaborés qui consistent à rechercher certaines hormones dans les urines, par exemple, ou à faire des calculs savants pour savoir si vous ovulez ou si vous ovulez pas. Personnellement, je ne fais pas trop confiance à ces appareils parce qu'ils ne peuvent pas être... même s'ils sont fiables, ils ne sont fiables que, encore une fois, chez les femmes qui ont une vie extrêmement rangée et un cycle tout à fait régulier. Chez les femmes qui ont une vie agitée ou un peu active, tout simplement, ces appareils ne seront pas très fiables. Ils ne seront pas plus fiables que le simple fait d'utiliser son calendrier.
Moi, c'est des méthodes que je ne conseille pas du tout à des jeunes filles ou à des jeunes femmes ou à des femmes en âge de procréer qui ne veulent pas du tout tomber enceinte, qui ne veulent pas du tout débuter de grossesse. En général, les femmes qui utilisent ce genre de méthode, elles ont un certain âge, des cycles bien réguliers, bien établis, et finalement, elles l'utilisent plus en se disant « si je tombe enceinte, ça sera maintenant, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, peu m'importe, mais c'est un moment dans ma vie où je fais un peu attention, mais si je tombe enceinte, c'est pas grave ». Ça sera peut-être bien, même bien, et c'est positif, et je garderai. L'utiliser vraiment comme méthode de contraception, ça me semble tout à fait inadapté.
En fait, c'est une méthode de contrôle du cycle, plus qu'une méthode de contraception, quoi.
Après, le seul truc qui est positif dans cette histoire, je trouve, c'est d'essayer de se connaître, de connaître son corps, de connaître son cycle. Et finalement, moi, en consultation, c'est des choses que je conseille aux patientes. Effectivement, quand elles désirent une grossesse, au lieu de se dire, plus on écoute son corps, plus on est à l'écoute de son corps et plus on essaye de savoir quand est-ce qu'on ovule, parce que avec les années, on peut essayer de connaître assez son corps pour savoir quand on ovule, dans le but, je trouve, d'avoir une grossesse, pas dans l'autre sens.
Très très bien se connaître, c'est la première conclusion qu'avait tirée Adèle en commençant à se renseigner. Et ça l'a menée dans une situation qu'elle a peu appréciée.
Ça demande en général des mois d'apprentissage auprès d'un coach, en quelque sorte, qui va aider à analyser. Donc j'avais commencé à... comme ça m'intéressait, avec mon copain, on était allé voir une association qui faisait ça. C'était une association chrétienne. Et clairement, ça m'a mise très mal à l'aise. On a eu un entretien d'une heure et demie avec elle. Et en fait, c'était... affreux, parce que elle m'expliquait que avec la méthode naturelle, il n'y avait jamais d'échec, parce que soit il n'y a pas d'enfant, et dans ce cas-là, ça veut dire que ça a marché. Et s'il y a un enfant, comme un enfant, c'est jamais un échec. Et du coup, ça marche quand même. Enfin, c'était trop bizarre. Elle m'a accueillie elle m'a ouvert son classeur, il y avait des photos de bébés, mais hyper cucu la praline, en me disant voilà, donc je sais que vous voulez pas avoir d'enfant, mais voilà, bref, c'était hyper malaisant. J'arrivais pas à la regarder dans les yeux. C'était vraiment horrible. Donc du coup, ça m'a quand même beaucoup freinée et je me suis, du coup, je l'ai plus recontactée. Enfin, même si du coup, elle m'a appris sur quoi ça se basait. C'était le fait que ça, le côté très chrétien autour m'a beaucoup dérangée. Et elle m'expliquait qu'en gros, enfin, du coup, je lui avais dit que j'avais pris la pilule, les préservatifs. Et elle m'expliquait qu'en gros, avec la pilule et le préservatif, je mettais une barrière. Et que, la meuf qui te juge un petit peu, tu vois, t'es là, bon. Voilà, elle disait, en gros, vous mettez une barrière et que l'acte amoureux, c'est pas une barrière. Et elle nous parlait, mon copain et moi, comme si on avait 5 ans, quoi. C'était. Bref. Donc, j'y suis pas retournée.
T'as réussi à lui faire confiance quand elle t'a appris comment ça fonctionnait alors qu'elle te montrait des photos de bébé en te disant il n'y a pas d'échec?
Non, justement, c'est ça qui m'a. C'est pour ça que je reste très sceptique par rapport aux méthodes naturelles. Ça m'intéresse et j'ai envie de savoir si du coup il y a des méthodes qui peuvent fonctionner auprès d'organismes qui ne soient pas chrétiens et qui ne soient pas un peu natalistes, mais, ce qui est contradictoire. Mais du coup, ouais, enfin. Ça m'a quand même fait un peu peur, d'autant plus que du coup je me suis renseignée ailleurs et en fait la température et la glaire peuvent changer pour des raisons autres que parfois c'est le stress, parfois c'est et donc du coup je sais pas si se connaître comme ça c'est vraiment possible. Je veux voir d'abord si c'est possible et si je me rends compte que c'est vraiment pas assez fiable, j'abandonnerai. Mais pour l'instant c'est quelque chose qui me sur lequel j'ai envie de me renseigner.
Si je comprends bien, le sujet de la contraception, tu le gères pas exactement toute seule dans ton couple, t'en discutes?
Ouais, là c'est un sujet dont on discute, ouais. Parce que, en fait, au début, c'était mon copain qui voulait arrêter le préservatif. Et moi, je lui ai dit, en gros, c'est lui qui a commencé à me dire, les méthodes naturelles, ça peut être très fiable, etc. Et donc, c'est ça qui a fait que je m'y suis intéressée. C'est parce qu'il m'a dit, regarde, ça peut marcher. Parce qu'il comprenait très bien que j'avais pas envie de reprendre la pilule. Ça, il le comprenait. Et donc, du coup, il m'a dit, mais tu sais, on peut peut-être s'intéresser à ça. Et donc, voilà. Et c'est moi qui mets un peu un frein dans tout ça en disant, non, mais attends, on va voir si c'est vraiment fiable. Et c'est lui qui, du coup, avait pris rendez-vous avec, en disant, tiens, regarde, parce que ça coûte très cher de se faire coacher. Parfois, je crois que ça peut aller jusqu'à 600 euros, parfois, pour 6 mois de coach. Donc, 100 euros par mois, ce qui est quand même beaucoup.
Et là, c'est lui qui paierait ou c'est toi ?
Non, on s'était dit qu'on verrait tous les. Qu'on ferait du 50-50. Et du coup, là, il y avait ce truc qui coûtait moins cher, qui était donc cette association chrétienne, et on y est allé. Je lui ai dit. Quand on est sorti, je lui ai dit, je ne veux plus revoir cette femme. Et lui, il était là, non, mais attends, mais on prend juste les conseils, et puis. On prend juste ses conseils et ok, tout le délire autour, on fait abstraction. Je lui dis, mais moi, je peux pas faire abstraction parce que je peux pas lui faire confiance, en fait. La meuf qui t'accueille, lui, il est arrivé en retard, donc il avait pas vu les photos de bébé au début. Je lui dis, mais non, mais on peut pas faire confiance à quelqu'un qui te dit que c'est pas un échec, qu'un enfant n'est jamais un échec. Enfin, c'est pas possible, quoi.
J'ai souhaité faire écouter ce témoignage à Véronique Seyé, co-présidente du planning familial et qui a commencé à y militer il y a environ 40 ans. Elle m'éclaire sur les ressorts sociétaux qui se cachent derrière ce type d'association qu'Adèle a elle-même qualifiée de chrétienne et nataliste. Derrière ces questions de santé, est-ce qu'il n'y aurait pas le spectre d'un discours politique ?
Il existe effectivement des méthodes de contrôle de l'espacement des naissances, par exemple. On voit des jeunes couples aujourd'hui qui disent moi je veux pas de pilule pour des raisons qui leur appartiennent. Alors les raisons, elles sont diverses. Ça peut être pour des raisons écologiques, rien dans mon corps, pas d'hormones. Voilà, pas de DIU par exemple, pas de dispositif intra-utérin parce que je veux rien dans mon corps et je ne veux pas d'hormones.
Il y a aussi la question des hormones, je pense, relâchées par les urines. Entend beaucoup qui font changer les poissons de sexe.
C'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup de discours autour de cela. Donc on va gérer la contraception en utilisant effectivement des méthodes d'espacement des naissances. Beaucoup de discours autour de, on a le sentiment de pas avoir toutes les informations nécessaires, donc on ne sait pas quels sont les produits qu'on utilise, donc on ne prend pas de risques. Il y a aussi des peurs par rapport à ça, liées à peut-être des épisodes où on n'a pas été très bien informé. Quand il y a eu la crise de la pilule, par exemple, on a vu des jeunes femmes dire « mais moi, je ne savais pas quelles seraient les conséquences, on ne m'a pas informé suffisamment ». D'où cette exigence aujourd'hui d'information sur l'ensemble des méthodes de contraception. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout un discours autour de ce retour à l'ordre naturel, comme s'il existait cet ordre naturel, qui fait que effectivement, eh bien, c'est aux femmes de faire attention, de contrôler leur sexualité dans un contexte où on remet en cause l'avortement. Pourquoi pas remettre en cause aussi la contraception et faire en sorte que ce soit aux femmes de faire attention. Si vous regardez le film Les Croisés contre-attaquent, à un moment donné, on voit Viktor Orbán participer à une rencontre de mouvements plutôt natalistes, hein, qui sont anti-avortement et qui prônent effectivement ce retour à l'ordre naturel, et où il dit très clairement qu'il est important que les femmes fassent des enfants, et fassent vraiment beaucoup d'enfants, parce qu'effectivement le pays aujourd'hui a besoin de main-d'œuvre, et qu'en même temps, il n'est pas question que ce soit des immigrés qui prennent la place des personnes dans un pays comme la Hongrie. Donc c'est un discours hyper dangereux, voire raciste. Empêcher les femmes d'accéder à des méthodes de contraception ou d'empêcher aux femmes d'accéder à l'avortement, c'est une certaine façon penser qu'on va les obliger peut-être à refaire des enfants. Alors, pas les obliger, c'est pas dit comme ça, mais refaire une éducation qui montre combien c'est important pour une femme de pouvoir être mère et que si on n'est pas une mère, on n'est pas une vraie femme, en sorte.
Après ce rendez-vous, Véronique Seyé m'a confié un rapport intitulé « Restaurer l'ordre naturel ». Le titre fait peur, et c'est normal. Il explore ces mouvements qui se diffusent en Europe et veulent répandre leur idéologie nauséabonde. De mon côté, ça a un peu remis les pendules à l'heure. Je vis dans un pays où j'ai la chance d'avoir le droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse. Mais ce n'est pas pour l'heure gravé dans le marbre de la Constitution. Et ce n'est pas non plus le cas partout en Europe. Je t'invite, à ce propos, à découvrir les reportages que j'ai faits dans de nombreux pays où l'IVG est illégal. Tu peux les découvrir sur Mademoiselle, sous forme d'articles et de podcasts, sous le nom de code « Les Mademoiselles dans le monde ». À titre personnel, je me borne à suivre les recommandations de Martin Winkler et de Laura Berlingot. Ma vie est bien loin d'être assez stable pour que j'envisage d'utiliser une quelconque méthode dite naturelle sans encourir un risque trop élevé de tomber enceinte. Le taux d'échec de ces méthodes dites naturelles peut tout de même atteindre 25% pour l'abstinence périodique. C'est un fait. Je préfère donc la contraception classique et la sérénité qu'elle m'apporte dans ma vie sexuelle au risque de tomber enceinte et de devoir recourir à l'IVG. Ce qui ne veut pas dire que je jette la pierre à celles qui font le choix des méthodes naturelles. Au fond, dans ce cas, le risque à assumer est de tomber enceinte et à partir de là, chacun fait ses choix. J'espère que tu y vois un peu plus clair et que tu peux désormais décider en toute conscience. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le diffuser autour de toi. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire et une bonne note. On se retrouve bientôt dans le prochain et dernier épisode. À très vite.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.